Ce shiur, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Pinchas ben Behiya, zichrono livracha, de mémoire béni. Alors, la question de Israël.
Comment ne pas perdre son identité dans une société judéo-chrétienne?
Comment ne pas perdre son identité juive dans une société, civilisation judéo-chrétienne? Entendez le judéo déjà, parce que judéo-chrétien, c'est pas juif, d'accord? C'est autre chose. Quand un peuple juif, qui est en exil physique, doit-il agir pour éviter un exil spirituel, c'est-à-dire sa perte d'identité, qui amène à l'assimilation? Parce que du moment que je ne suis plus juif, que je ne connais plus mon identité juive, spirituelle, donc aucune raison de ne pas me mêler au non-juif, donc qui amènera une perte physique du peuple. Qui est d'ailleurs le lot du peuple d'Israël, car nous sommes aujourd'hui que 13 millions de juifs, environ, il y en a qui disent un peu plus, il y en a qui disent un peu moins. Il y a beaucoup de convertis à propos desquels on ne sait pas très bien comment statuer s'ils sont juifs ou pas, d'accord, beaucoup de conversions plus ou moins bidons dans le monde. Donc disons 13 millions. Or, les bouquins d'histoire disent qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%. 6 millions de on dit 6 millions de juifs, 2 millions en terre d'Israël, 2 millions en Babylonie, 1 million en Égypte, 1 million dans tout le bassin méditerranéen. 6 millions. Donc au prorata, si aujourd'hui il y a 7 milliards d'habitants sur la planète Terre, 8% de 7 milliards, combien ça fait? 560 millions. Ce qui nous fait donc 560 millions, un peu plus qu'un demi-milliard. Donc, tu aurais la Russie, la Chine, après Israël, après la Russie, après USA, d'accord, peut-être la deuxième population mondiale, peut-être les Hindous, enfin voilà. Et on est le plus petit peuple du monde, peut-être, 13 millions. 13 millions. Comment ça se fait? Les massacres. Mais c'est quand même insuffisant. Comment de 560 millions, on arrive à 13 millions. Alors disons qu'il y a eu le massacre à Shoah, 6 millions, ça nous fait 554 millions. Allez, combien de temps encore de massacres durant l'histoire? T'arrives pas à 10 millions en plus. Mais même admettons tous ceux qui ont été massacrés et les enfants qu'ils auraient dû avoir et qui n'ont pas eu. Je te donne en cadeau 100 millions. Reste 460 millions qui manquent. Où sont-ils passés? Assimilé. Non, parce que je parle d'il y a 2000 ans. Dix tribus, ça date d'il y a 2600 ans, 2700 ans, d'accord, les dix tribus. Il y a 2000 ans, donc à l'époque de l'Empire romain, comme ça dit le bouquin d'histoire, on présentait 8% de la population mondiale. Donc on aurait dû être prorata aujourd'hui proportionnellement 560 millions. Nous ne sommes que 13 millions. 100 millions donnent cadeau ceux qui ont été massacrés, leurs enfants qu'ils auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas eu. Reste 460 millions qui manquent. Comment sommes-nous arrivés à ça? Et ça, faut comprendre, parce que c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est grave? Parce qu'un juif se sent juif dans la mesure où il fait partie d'un peuple dont il veut la pérennité, la continuité. Or, on voit qu'il y a ici un certain, qu'on va définir tout de suite, l'assimilation, d'accord, un certain ennemi qui fait des ravages. Pire que les massacres. Comprenez, ça veut dire, c'est beaucoup. 460, moins 13, ça fait, on a 447 millions de juifs disparus dans les bras de Christine, ou de Fatima, ou de Christie, ça dépend où on est, ou de Tatiana, ou de Christian, Boris, Ahmed et John, d'accord? Peu importe. L'assimilation se fait dans les deux sens, parce que même si la femme se met avec un non-juif, vous me direz les enfants sont juifs, mais les petits-enfants, ils sont plus juifs, d'accord? Petits-enfants, ça part en cacahuète. Il y a un seul moyen de tenir, celui qui a fait ses preuves. Peut-être pour bien comprendre ce moyen, on va montrer un peu... Bon, c'est un cours que j'ai déjà fait souvent, mais c'est important de comprendre et de bien... comprends ça parce que ça nous concerne terriblement. Ça nous concerne terriblement. Chacun est certain qu'il est juif, il est fier de l'être, et qui va pouvoir donner cela en héritage à ses enfants. Cette fierté d'être juif, ce désir de rester juif. Et on voit que ça ne marche pas. Regardez. Bon, j'ai souvent fait ce sondage, on va refaire ici dans la salle. Qui dans la salle, son arrière-grand-père, était-il Mechalel Shabbat, profané le Shabbat? Qui a eu la main? Ashkenaz. D'accord? Toi aussi? Deux. Donc une très grande minorité dans la salle. Qui dans la salle maintenant, dans sa famille, tout le monde ne fréquente que des juifs ou des juifs? Mariage, concubinage, copains, copines, d'accord? Qu'entre juifs? Combien? Une personne. Deux peut-être. Tu lèves la main ou pas? Dans ta famille? Oncle, tante, cousin, parents, frères, sœurs, tout le monde fréquente que des juifs.
Ah, non.
Non. Donc une personne. Donc on voit que c'est une perte terrible. La majorité de la salle, l'arrière-grand-père était super pratiquant. La majorité de la salle, écrasante, d'accord? Une fois que j'ai fait une conférence, il y avait 500 personnes. 500 personnes. J'ai demandé, dans ta ville, j'ai demandé qui dans la salle, l'arrière-grand-père était non pratiquant, c'est pas Shabbat. Aucune main s'est levée. Tous étaient des descendants de pratiquants, tous marocains, nord-africains, comme ça. Qui dans la salle, tout le monde, c'est des mariages entre juifs, concubinage, qu'entre juifs. Aucun n'a levé la main. C'est terrible. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y a déjà une personne. Bien que l'arrière-grand-père était religieux, il y a déjà une partie qui est partie. Qui est partie.
Mais là, ce que vous dites, c'est récent. Parce qu'à ce moment-là, au cours de l'histoire, il doit y avoir des périodes comme ça. Sinon, il y aurait beaucoup plus.
C'est pas récent. C'est hélas pas récent du tout. Tu prends en Espagne, les Juifs d'Espagne, tu prends de tout temps, il y a eu. De tout temps. De tout temps, il y a eu. Il y a des périodes où c'était plus accentué, moins accentué. Depuis la Révolution française, c'est l'hécatombe. Napoléon, l'hécatombe, d'accord? Ça a commencé en France, après ça s'est éparpillé. Dans tous les endroits où on a émancipé les Juifs, il y a une grande assimilation. Mais avant aussi, en Espagne, c'est connu qu'il y avait beaucoup de mariages avec non-Juifs. Comment ça se fait? C'est ça qu'il faut comprendre. Que l'arrière-grand-père, il est religieux, il est pratiquant, il transmet à ses enfants, et pour fournir à l'artifice avec une Goya. Comment ça se fait? Alors j'ai fait ce cours-là souvent, je vais le refaire ici, désolé pour ceux qui connaissent, d'accord? L'arrière-grand-père, il quitte son Maroc natal, Tunisie natale ou Pologne natale, et monte, à l'époque on ne monte pas en Israël, on monte en France, à Paris, rue des Rosiers, ou, d'accord, à l'époque, quartier juif de Paris. Et il pratique. Et il pratique. Mais la pratique en France est un peu différente qu'au Maroc. Shabbat, on ne peut pas porter à l'extérieur. Au Maroc, on portait. Pourquoi? Parce qu'il y avait la muraille, le Mela, une muraille qui entourait la ville, on pouvait porter. Là, on ne peut pas porter. Et voici, le grand-père, c'est le sale hiver français parisien. La grisaille, il fait froid. Pas le grand-père qui vient de Meknès, d'accord? Lui, habitué à la chaleur du désert. Il n'est pas habitué et il est enrhumé. Bon, c'est vrai que dans le rhume, il y a deux phases. La deuxième phase, c'est quand, dans le nez, comme ça, c'est, je m'excuse un peu des détails, c'est vert, un peu gluant, solide. Mais au début, la première phase, c'est complètement transparent, liquide, et toutes les 30 secondes, pique, t'as une goutte comme ça, c'est terrible. Le mouchoir, que voici, nécessaire. Sans ça, t'es fichu. Toutes les 30 secondes, pic, 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 tu vas faire. Tu vas à la synagogue, si tu n'as pas un mouchoir, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à te moucher dans la manche. Alors, grand-père est chez lui à la maison, il dit, qu'est-ce que je fais? Avec un mouchoir à la synagogue, c'est interdit. Sans mouchoir, terrible. Je ne sais pas, moi, je suis sur la manche. Bon, alors, on comprend par terre. Mais t'imagines un peu l'archouma, toujours la goutte ici, puis c'est pas grave, et puis tu fais Baruch Hashem Vorar, pic sur le sidour de la synagogue. C'est encore ton sidour, ça va, mais c'est sur la synagogue, pic. On t'appelle à la Torah. Yahamod, voilà, Rabbi Mesod ben Freha, il monte, Baruch Hashem Vorar, pic sur le Sefer Torah. L'archouma. la honte en bon français. Que faire? Bon, ben, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Mais mon cher ami, Kriyat HaTorah, Kaddish, Kedusha, Minyan, Birkat Kohanim, on a besoin de toi. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, réfléchis. Réfléchissons. D'abord, je ne comprends pas. Ce n'est pas si grave de porter un mouchoir dans la poche. Je n'ai pas porté une valise. Je n'ai pas allumé le feu. Et puis au Maroc, on portait. Gros bêta, on t'a dit, c'est parce qu'il y avait le Mélard. Ouais, mais quand même, que ça fait qu'il y a une muraille aussi. Mais Paris, il y a plein. Il y a aussi une muraille à Paris quelque part, non? Et puis, mon cher Abénou, s'il avait su dans sa Torah qu'on serait un jour en exil dans ce patelin-là en France avec un hiver pareil, il n'aurait pas fait une loi pareille. Il aurait reçu la Torah au Mont Sinaï, là-bas c'est un climat, désertique, donc il fait très sec, il n'y a pas de rhume, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Que je reste ici à la maison et mon fils, je dois bien l'éduquer. Il ne veut pas quand même que je fasse pique sur le Sefer Torah. Eh bien, Dieu comprend. Dans un cas pareil, il ne faut pas être trop carré dans la vie. C'est ça le principe, pas trop carré. L'alakha, ça va un peu, de temps en temps, on peut arrondir les angles. Et notre arrière-grand-père, qui est religieux, la totale, il porte un mouchoir dans la rue. Shabbat. Bon. Avec son argumentaire l'autorisant. Il a son fils qui grandit, et tous les Shabbats, il le prend par la main, ils vont ensemble à la synagogue, il le raconte sur le chemin, Parashat Shavua, la sidra de la semaine. Et tout à coup, le grand-père, il sort le mouchoir dans la rue pour s'essuyer. Le père, le fils, il voit, papa, un mouchoir dans la poche, je comprends pas. Au Talmud Torah, on m'a dit qu'on pouvait pas, je comprends. Alors on peut ou on peut pas? Le grand-père, le grand-père, il est pris en flagrant délit. Bon, il fait la déballe. Tu sais, mon fils, c'est vrai, les rabbins disent comme ça, mais comprends. Comprends que moi, je suis en remis chronique. Si je ne porte pas, maintenant, je ne vais pas te prendre à la synagogue. Je ne vais pas faire pique sur le Sefer Torah. Et Moshe Rabbeinu, c'est un climat désertique chaud. Et au Maroc, on portait. C'est vrai qu'il y a une muraille, mais ici aussi. Et de comprendre, c'est pas si grave. OK. On peut bluffer tout le monde, y compris soi-même, mais pas les enfants. Les enfants, dès très jeunes, sont extrêmement lucides. Le message, ils ont compris tout de suite. La Torah, c'est important, la synagogue, tout ça, mais il ne faut pas pousser. Quand ça devient un peu trop carré, il faut savoir un peu arrondir les angles. OK, le fils va grandir. Il va à la synagogue, bien sûr, Shabbat. Un beau jour, il pleut des cordes. Orage européen au mois de décembre. Maintenant, arrive à la synagogue à pied, c'est une demi-heure. Parapluie interdit. Il va comme ça, il arrive tout trempe. Il y a Arvit, il y a Shachrit, il y a Mincha, trois fois une demi-heure aller-retour, ça fait une demi-heure aller, une demi-heure retour, ça fait une heure, trois heures sous la pluie. Motsé Shabbat, pneumonie assurée. Qu'est-ce que je fais? Je reste à la maison. Mon cher ami, Kedusha, si tout le monde fait comme toi, il n'y aura pas de Minyan. Kedusha, Kaddish, Minyan, Kriyat HaTorah, qu'est-ce qu'on fait? Bah j'y vais. Mais tu ne veux pas aller par ce temps-là. Puis c'est marqué dans la Torah, Benishmartem, Olen Shoterem, il faut garder son corps en bonne santé, il faut garder la santé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il réfléchit. Eureka. La voiture. La voiture! Moshe Rabbeinu, on ne le connaissait pas. C'est marqué dans la Torah qu'on ne peut pas rouler en voiture. Pour aller à la synagogue, Shabbat, quand il pleut comme ça, c'est une mitzvah. Sinon, je vais être malade. Et Dieu veut qu'on garde son corps en bonne santé. Benishmartem, Olen Shoterem, je fais une mitzvah. Et il prend la voiture et il roule. Sur la route, il voit le rabbin sous la pluie. Pff, il n'a rien compris celui-là encore. Dans le ghetto. Juif obscurantiste, primitif, ghettoïste, moyenâgeux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore un nous, qu'on appelle ça hein? Fanatique. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Ok, on est déjà au petit-fils. Non, c'est le fils. Le arrière-grand-père, le mouchoir. Son fils, donc le grand-père, la voiture. Le petit-fils. Petit-fils, alors lui, il garde. On va Shabbat, on va à la synagogue, bien sûr. Le soir, on fait le kiddush. Mais, chérie, baisse le son de la télévision. Je fais le kiddush. Shabbat d'hiver, quand ça rentre tôt, ça rentre à 4 heures, Sa femme finit le travail à 3h30, elle court comme une folle, elle arrive après Shabbat, mais on ne va pas passer un Shabbat sans allumer les bougies de Shabbat. Elle allume les bougies de Shabbat, après l'entrée de Shabbat. Passer un Shabbat sans bougie, c'est pas shabbatique. Alors on regarde des choses super, super essentielles. Le kiddush, l'ambiance shabbatique à la maison, samedi après-midi, shopping, samedi soir, en boîte, mange kasher, oui à la maison, dehors, toutes les variantes, McDo fish, McDo pas fish, McDo do, d'accord, je sais pas, tout. La Goya, on touche pas trop, mais alors, en été, on va en Israël, là, on se défoule. Natania, Elat, Ashdod, en croyant que c'est des juifs, mon cher Avi. Ça a eu été aujourd'hui, ils ont fait une importation. T'as Tatiana, Natacha, tout ce que tu veux ici aujourd'hui. Et les femmes aussi, il y a beaucoup d'autochtones de la région là qui ont l'air juifs comme un autre. Et ils ne sont pas juifs. Et elles tombent et s'amouragent 30 000 femmes juives israéliennes ici avec des autochtones de la région. Tout gentil, tout bien avant le mariage. Après le mariage, je ne te dis pas. Bon, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on garde le soir de Pessah? On va tous en voiture pendant Pessah au Seder familial. On est super sioniste, Tzahal. Rosh Hashanah, synagogue, shofar, Kippour, pas question de manger. Hanouka, on allume les bougies. Qu'est-ce qu'il reste? Bar mitzvah, mariage, enterrement, lo alechem. Shavuot, ça n'existe presque pas. Tisha B'Av, on n'en parle même pas. Alors, Tisha B'Av, en plein qu'on est au bord de la mer, qui se souvient de Tisha B'Av? Pourim, vaguement. C'est encore, je ne sais même pas. Peut-être, ouais. On fait une soirée dansante. Ouais, Sukkot. La soirée dansante de l'année, Pourim. Quoi, Sukkot? Il faut Sukkot.
Et on fait Nouvel An.
Et bien sûr, Nouvel An, tout ça. Bien sûr. Bien sûr. Le gueuleton, comme ça ils appellent ça. Le gueuleton, je crois, comme ça ils appellent ça. Il y a un grand festin, on se saoule et on s'éclate. Enfin, il s'éclate. Hachem Ishmor. Bon, mais on est super. Attention, faut pas nous toucher. Le petit qui dit ça juif, je défonce. D'accord, on est super juif. L'arrière, petit-fils, il va à la fac. Et il y a Christine. D'abord, elle est blonde. Eu les pieds noirs. Un pied noir voit une blonde, déjà, ils ont complètement. D'accord. Chling. Et puis, elle est sympa, elle est facile. Les juives, elles sont casse-pieds. C'est le même ce qu'elles veulent. Oui, non, et puis là, elle, caractère. Et c'est pour s'amuser au début. On s'amuse 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne peut plus s'arrêter de s'amuser. Et un beau jour, alors, petit-fils, alors, papa et maman, Christine et moi, une bonne nouvelle à vous annoncer. Quoi? Ben, on va se marier. Mais mon fils, mais quoi, papa? Mais elle n'est pas juive. Mais papa, je comprends pas, quoi. C'est un singe. Tu la connais. Elle est bien. Tu es mon bonheur. Je suis heureux avec elle. Sarah Léa, j'ai essayé, elles sont casse-pieds, elles sont dures. Elle m'a raconté, Christine. Elle est venue à la synagogue, elle a tellement aimé, elle trouve ça tellement solennel. Elle a pris le sidour. C'est pas encore très bien comment on lit à l'envers, à l'endroit. Au moins, elle essayait de lire. Elle n'entendait rien. Et avec Rachel et Léa qui papotaient du Lashon Hara toute la journée. Toute la prière. T'as vu lui, ha ha, tatati, tatata. Elle au moins essaie de prier. Tu veux une qui fait de Lashon Hara ou une qui est authentique? La Brit Mila des enfants goy qu'on aura avec Christine, elle a accepté, on fera la Brit Mila. D'ailleurs, j'ai trouvé un rabbin, je lui ai mis $2000 et voilà. Trempé au mikvé, c'est bon. Tu pourras dire à tout le monde qu'elle est juive. Israël, elle a adoré. Ah, j'ai oublié de dire les choses super importantes qu'on garde. Ça, c'est les dernières choses. Ça, c'est le plus important dans notre culture, c'est quoi? La culture culinaire. La daf. Koussous boulette pour les Tunisiens. Gefilte fish pour nos frères Ashkenaz. Etc. Pkela pour les Tunisiens aussi. Et ça, un moment. Et ça, Christine ne dit pas à maman, papa. Elle sera jalouse. Mais Christine fait mieux la daf que maman. Donc même ça, j'aurais. Au nom de quoi le père va-t-il dire non au petit-fils, à son fils? Au nom de quoi? Ce que tu fais, papa, Kiddush, Israël, Brit Mila, tout cool comme ça, elle le fera aussi. Je suis heureux avec elle. Tu comprends que ça ne pèse pas lourd. Ce que le père a fait, le fils fera aussi. Simplement, lui, c'est avec une jupe, avec une Goya. Et c'est comme ça que 447 millions de juifs sont partis, ont quitté le peuple juif. Il y a eu, j'ai cité ça souvent ici aussi, dernièrement, ils ont fait un sondage, une étude sociologique en Amérique. Ils ont pris 5 communautés juives, libéraux, laïcs, conservatifs, semi-orthodoxes, donc modernes orthodoxes et orthodoxes. Ils ont pris 100 personnes, et regardez sur 150 ans, qu'est-ce qui se passe. Les 3 premiers, laïcs, libéraux, conservatifs, après 150 ans, il reste ces 100 personnes entre 3 et 13 juifs. Entre 3 et 13 juifs. Tout le reste sont goy, terminé. Terminé. Je ne parle pas de 6 millions de juifs morts dans la Shoah. Je parle de 447 millions de juifs morts dans les bras d'une non-juive. Vous direz, c'est beaucoup moins violent. C'est vrai, c'est violent. C'est beaucoup moins violent. Mais regarde les résultats. 440 millions. Disparus. Dans les semi-orthodoxes, modernes orthodoxes, de 100 familles, ils arrivent à 350. De 100 personnes, au bout de 150 ans, ils arrivent à 350 juifs. Et chez les orthodoxes, ils arrivent de 100 personnes à 2700. Fois 7 fois et demi plus que les modernes orthodoxes. Orthodoxe, c'est comme les Mizrahi, le Datiloum ici en Israël. C'est-à-dire, religieux, il ne faut pas pousser. En gros. C'est-à-dire, Datiloum, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup, c'est très... Mais en deux mots, dans le message, c'est un message qui se dit plus cool, plus ouvert, plus moderne, plus laxiste, plus arrondir les angles. Ils sont multipliés. Mais 7 fois moins, 7 fois demi moins, ça veut dire que c'est énorme. Ils ont une perte de 2300. Sur les orthodoxes, ils ont 2700, ils ont une perte de 2300. C'est énorme, énorme.
C'est pas une perte, c'est une non-production, si vous
voulez. C'est une perte quand même. Ils sont passés où?
Il n'y a pas eu, c'est pas une perte. Une perte, c'est quelque chose.
Mais non,
c'est ça. Ce... Non,
ils ont eu des enfants qui sont mariés avec des non-juifs.
Ah, ils ont eu quand même.
Bien sûr.
Mais pourquoi cette tension de réussir à rester juif presque?
Attends, ça, on va en parler après. Maintenant, qui est responsable de ça? On a l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et le fils. L'arrière-grand-père, il est pratiquant. Le fils, il est avec la non-juive. Qui est responsable du fils? Le fils, après tout, c'est pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il a reçu comme exemple? Qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut arrondir les angles. Qui est responsable? Le grand-père ou l'arrière-grand-père?
Le premier.
Le mouchoir. C'est pas si grave de porter un mouchoir dans la rue Shabbat. C'est vrai, c'est pas si grave. C'est très grave. Pourquoi? C'est pas la halakha en soi que t'as transgressé, c'est le principe. Faut pas pousser, faut pas être carré, faut savoir un peu arrondir les angles. Ça, c'est la fin. Pourquoi? Parce que la Torah, Dieu, le premier message qu'il nous dit quand il donne la Torah, il dit vous serez un peuple saint, sacré. Un peuple sacré, c'est quoi sacré? Sacré, c'est au-dessus. Sacré, c'est différent. Différent. Il y a la Torah. Elle est kedosha, elle est sainte, elle est sacrée, et il y a le monde. Alors, on vit dans ce monde. Il faut travailler, il faut faire des études, il faut tout ça. Mais quand ça touche la Torah, on ne discute pas. Terminé, ça n'a rien à voir. La Torah, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas à discuter. Dans le cas, quelqu'un est enrhumé maintenant, il a la phase numéro 1, pic-pic, d'accord, il ne va pas à la synagogue, point barre. Aujourd'hui, à la synagogue, il y a des mouchoirs. Mais à l'époque, il n'y en a pas. Oui, il y a une impossibilité. Il n'y va pas. Aujourd'hui, il y a un grand problème en France avec les lumières qui s'allument. D'accord? Donc, tu rentres, tu sors de chez toi, pling, d'accord, tout s'allume. Tu sors pas. Agir pas à la synagogue, mais vaut pas à la synagogue. La Torah interdit. À la synagogue, c'est bien, c'est important, tout ça, mais il y a des priorités. Shabbat, on ne touche pas. On ne touche pas. Va par contre, les jours de Chol, les jours profanes, où il y a mis ça d'aller, oui, à la synagogue, 3 fois par jour, pour Shachrin Mincha avec là, vas-y, tu peux laisser la lumière allumée le lundi, mardi, mercredi, aucun problème. Non, moi, je veux que Shabbat, je vais à la synagogue. Décide, mon cher ami, quand tu veux pas y aller, quand il faut y aller, tu veux pas y aller. Quand il faut pas y aller, tu veux y aller. C'est le monde à l'envers. Le principe est le suivant. Si quelqu'un comprend maintenant que la Torah, on ne touche pas à ça. C'est une chose qui est au-dessus de tout. Ça rentre dans les veines du gosse. Les enfants, ils voient ça. Ils voient qu'on vit notre vie, mais dès que c'est Torah, on ne parle plus. Donc, ce n'est même pas par la parole, c'est par l'exemple. Chacun dans sa vie, il a des tensions, il a des prérogatives, il a des choses, il ne sait pas quoi faire. Et dans ses choix, Il décide, je ne fais pas maintenant de demi-mesure. Avec le doigt, on ne joue pas. C'est la parole de Dieu, je ne fais aucun compromis. Aucun. Ce que nous reprochent tous les mouvements autres. Mais tous les mouvements autres du peuple juif, tous. Tous ceux qui ont dit, on permet, on ne veut pas être goy, mais on fait des compromis. Tous ceux-là, sans exception, ont tous disparu de la carte. On ne connaît pas d'arrière-petit-fils de libéral. Ou 3 sur 100, d'accord. Et si on prend maintenant sur 200 ans, il n'y a plus aucun.
Pourtant, on voit ce qui se passe, la nouvelle taxe que vous êtes en train de parler.
Attends. Toi, tu regardes sur 10 ans, sur 20 ans, sur 50 ans, sur 100 ans. Prends sur 3 siècles. D'accord. C'est fini. Disparu. Il y a eu tout le temps, il y a eu des mouvements qui ont dit compromis. T'avais les Tzedokim, les Baitosim, les chrétiens, les Shomronim, les Samaritains, les Dardaïm, de l'époque du Rambam, les Karaïtes. De tout temps, il y a eu tous ces mouvements. Il y avait les néologues avant la Seconde Guerre mondiale. Tout cela, qu'est-ce qui reste d'eux? Disparus. Eux, ils étaient très bons juifs. Enfin, des très bons juifs du compromis. Leurs fils ont fait un compromis du compromis. Ah, ils ont fait un compromis du compromis du compromis. Et là, après la Goya, terminé, c'est comme ça. Chacun enlève une moitié. Fini. Quel exemple tu donnes? Et ça nous concerne, messieurs. Si nous, maintenant, on va prendre notre vie de faire des compromis, nos enfants feront un compromis du compromis. Et dites pas, il y a des balles et tchouva. Il y en a 1 sur 1000. Il y en a qui reviennent. Les parents font des compromis, le gosse, il revient, il devient super orthodoxe. Bon, c'est une bracha, c'est une bénédiction, mais qui peut miser là-dessus? Nous, on doit mettre de notre côté toutes les chances de réussir. Et c'est clair que lorsque tu donnes une éducation qui est droite à ton fils, tu dis à ton fils, la Torah est importante, et regarde, je me comporte en fonction de cela. Je ne suis pas un menteur de mon comportement. Quand la Torah dit une chose, je ne joue pas. On doit faire une bracha, je fais la bracha comme il faut bien. On doit faire une prière, je fais la prière. Je suis fatigué, j'y vais quand même. Je vais raconter une fois, j'ai raconté ça ici. Rav Zilberstein raconte cela, c'est le gendre du Rav Eliashiv. C'est le rabbin du quartier Ramat El-Hanan, près de Bnei Brak. Il raconte qu'il donne un cours tous les soirs à un groupe de personnes qui travaillent le jour, et le soir, ils viennent étudier une page de Gemara. Puis un nouveau qui est venu un beau jour, il ouvre sa Gemara, après 5 minutes, il s'endort. Pas qu'il s'endort comme ça, au bout d'un moment, carrément, il se pose sur la table, et d'accord. Bon, il vient d'arriver, on ne va pas le déranger. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 3 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans, tous les jours, il vient, pendant 2 heures, il dort, on finit le cours, il part à la maison. Au bout de 2 ans, le rave, il a dit, écoute mon cher, mais je peux te parler après le chiour. Ouais, je comprends pas. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Je vois que tu dors. Ouais, je suis crevé. Pourquoi tu viens? Dors chez toi, toi, un oreiller. Hein, tu seras beaucoup mieux qu'ici, dormir sur la table. Moi, ça me dérange pas, mais c'est un peu dommage, quoi. Tu seras mieux chez toi. Monsieur, je veux que mes fils apprennent c'est quoi l'investissement qu'on fait pour la Torah. Mes enfants voient que je suis fatigué et je sors tous les soirs à mon chiour de Torah. Je veux qu'ils voient cela. C'est vrai que je ne tiens pas le coup, je m'endors. Je ne tiens pas le coup. Mais au moins, mes enfants vont voir. Un exemple de quelqu'un, regarde, ce n'est pas facile, pendant 2 ans, de venir dormir sur une table, d'accord. Mais quand on donne l'exemple juste à ses enfants, ben, ils voient. C'est vrai que l'enfant a un libre choix. Bonjour, il pourra aussi, lui, décider de faire des compromis. Mais au moins, mon rôle, je l'ai fait. Je ne suis pas responsable. Mon rôle a été que j'ai donné une éducation juste, cohérente. Disant que la Torah est importante, c'est la parole de Dieu, et montrant cela. Mais quelqu'un qui dit, Dieu vient de la Torah, et je fais tout le contraire. Le gosse, il comprend très bien, c'est de la blague. Tu me dis, c'est de la blague. Il dira, je crois plus en Dieu. Comment t'oses? Dieu nous préserve une chose pareille. Comment tu crois plus en Dieu? Mais qu'est-ce que tu me montres comme exemple, papa, maman? Vous croyez en Dieu, vous? Comment vous parlez à la Shonara? Comment vous faites votre Shabbat? C'est tout parle de business. C'est quoi ta synagogue? Quand tu viens, tu pars à la synagogue sans cesse, la Torah l'interdit. C'est quoi ta prière? C'est une blague? Brr, 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 après rigoler avec ton voisin. Le gosse, il comprend. Je ne comprends pas pourquoi je vais aller m'enquiquiner 3 heures à la synagogue pour parler avec les copains, faire soi-disant une prière. C'est de la blague! Christine, c'est vachement plus sympa. Et il a raison. L'exemple que tu donnes, il est tronqué. Il ne veut pas être menteur. Il est juste. Alors, c'est vrai qu'il a attaché au peuple juif. Il fera encore un peu. Mais le gosse, de son gosse à lui, il est encore moins attaché. Il est un peu attaché, mais moins attaché. Et quand on lui dit la Goya, c'est interdit, il dit, ok, mais regarde, t'as vu la tête de la Goya? Alors, entre le attaché que j'ai, la tête de la Goya, il n'y a pas photo. La Goya passe avant. Et, pour que tout le monde soit content, on fera une conversion à la noix, et un peu d'argent par-ci, et une brite là aux enfants Goya, et tout le monde sera content. Et c'est ça qui a fait que durant 2000 ans, dans nos exils, dans la civilisation judéo-chrétienne, on est devenu des chrétiens. C'est qu'on a quitté la Torah, d'accord ? On a oublié le judéo. Le seul moyen de tenir le judéo, c'est se renforcer dans la pratique et l'étude de la Torah. Pour qu'une pratique soit intelligente, cohérente, faite avec... C'est très fin la Torah, c'est très beau, c'est très grand, il faut aussi la connaissance. Sans connaissance, on est bête. Comme quelqu'un qui roule en Ferrari, non, Ferrari, c'est pas un bon exemple. Quelqu'un, je sais pas, tu lui mets dans les mains une fusée, d'accord, et il sait pas comment aller. Alors, il sait vaguement tenir le cap, mais tous les potentialités, il va pas les réaliser. Pour pouvoir donner un bon exemple de Torah, il faut de la connaissance. Savoir quand on peut faire, quand on peut pas faire, pourquoi les enfants posent des questions, avoir les bonnes réponses. Quand on donne un exemple cohérent, intelligent, bon de la Torah, que tu es quelqu'un qui fonctionne d'après les lois de la Torah, aussi au niveau humain, que tu es à l'image de Dieu, tu t'énerves pas, tu es gentil, tu expliques, tu es bon avec ton propre, tu veux aider. Les enfants, ils vont être bons. Et ils voient ça, ils deviennent amoureux de Dieu. Ils veulent aussi, à l'exemple de leurs parents, des gens bons, des gens qui font le bien. Mais si tu fais tout le contraire, tu manges cachère et tu magouilles. Alors qu'est-ce que tu montres à tes enfants? La Torah dit qu'on ne peut pas magouiller, moi je magouille. Pourquoi? Bah, t'as vu combien je peux gagner. Moi, manger cachère, je peux. Ça coûte pas trop cher. Et encore des fois, oui, cachère, oui, ça non. Ça oui, ça non. Le porc, non, mais la viande pas cachère, oui. Quelle différence entre les deux? Il n'y en a aucune. Voilà, la chasserie, il n'y a aucune différence entre les deux. Tous ces compromis qui sont tordus. Tu gaves ton gosse de notions tordues. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de lui autre chose que cela? Oui.
Deux questions. Oui. Est-ce qu'on peut faire quelqu'un qui est voilà, dans l'erreur, comme vous avez dit, comme vous avez décrit aujourd'hui? Est-ce qu'il, une fois qu'il a écouté ce cours-là, il peut faire tchouva, il peut avancer, il peut changer? Est-ce qu'il peut faire des compromis, mais dans le bien vers Dieu? Je ne mange plus le porc, je mange la viande pas cachère. Dans un mois, je mangerai la viande peut-être cachère. On verra. Est-ce qu'il peut faire ce genre de compromis?
Réponse, c'est très délicat. Oui, mais il ne faut pas être menteur.
Par exemple, moi j'ai mon oncle, il prend la voiture pour aller.
J'ai bien compris. J'ai bien compris. Non. Alors, prendre la voiture Shabbat pour la synagogue, en aucun cas.
Si ça lui donne envie de faire tout. Peut-être que dans un
Écoute,
mois, il va plus prendre la voiture.
Peut-être, je ne sais pas. Je vais te dire. Ta question est très délicate. Le critère est le suivant. Si c'est émet, c'est une chose qui est vraie, authentique, juste, alors il faut croire que Dieu accepte cela. Bien qu'on fasse des péchés en attendant, il faut croire que Dieu accepte, parce que Dieu, il est émet, il est juste et authentique. Mais si maintenant, c'est de la combine qu'on fait, si vraiment, de façon la plus honnête qui puisse, je ne peux pas faire autrement, parce que je ne veux pas arriver d'un coup à tout, et je fais par palier, c'est pour vraiment pour arriver sincèrement à tout, je pense que ça va. Mais, si c'est pour ne pas aller trouver, parce qu'on est paresseux, parce qu'on ne veut pas arriver au but, et on dit, oui, un jour j'arriverai, Dieu voit qui est menteur et qui est... La même personne qui fait une chose peut être vraie pour lui et fausse pour l'autre. C'est très délicat comme réponse. Parce qu'on peut apprendre de cela que c'est permis, alors que si on est un menteur, alors au contraire, c'est le pire des choses. Il y a le Gemara dans Traité Betsa, page 17. Elle parle d'un cas, c'est trop compliqué à expliquer maintenant, mais elle parle d'un cas où quelqu'un a fait une chose qui n'est pas valable. Il a fait un plat de façon... un plat. Est-ce qu'on peut manger le plat, oui ou non? Alors, la Gemara, elle donne un exemple. Quelqu'un maintenant qui a fait exprès de faire l'interdit. Et on dit que le plat, il est permis à l'autorisation. Est-ce que, vu que c'est permis, est-ce qu'on peut aussi croire que quelqu'un qui a fait maintenant, il a fait une combine, il a fait un truc, c'est comme si. Il n'a pas dit « je vais faire exprès l'interdit », je vais faire comme si c'est permis, mais en fait, il fait un interdit. Mais il le maquille de comme si. La Gemara dit, si je t'ai autorisé de faire celui qui a fait exprès le mal, je t'ai autorisé de manger le plat, c'est pas dire que je t'autorise maintenant celui qui a fait comme si. Le comme si est beaucoup plus grave. Le comme si est plus grave que celui, quelqu'un qui décide de faire le mal. C'est moins grave que celui qui fait le mal camouflé en bien. Et Rachid explique, donne trois raisons pour cela. Première, parce que d'abord il se dit, j'ai pas fait de mal, parce que c'est camouflé en bien, donc il fait pas de chouva. Deuxièmement, les autres apprennent de lui, parce que s'il fait le mal, les gens disent, il fait le mal, je ne vais pas faire comme lui. Mais s'il fait le bien, c'est maquillé. Bon, c'est un mal pour un bien. Venir en voiture, par exemple, à la synagogue Shabbat. Voilà, c'est du genre, je fais une mitzvah, c'est bien. C'est pas bien, mais c'est bien. D'accord? Les gens peuvent dire, oh, ben lui, il fait, moi aussi, je fais. D'accord? Troisième chose, dit Rashi, il déracine la Torah. Parce que si on n'a pas la synagogue, alors c'est clair qu'il n'y a plus rien. On comprend c'est ou la Torah, la synagogue, ou pas de synagogue. Mais là, si on vient en synagogue en voiture, je permets maintenant de faire une nouvelle Torah, dont les gens pourront prendre un exemple, et je dessine la vraie Torah, qui est interdite de venir en voiture. Shabbat à la synagogue. Donc, le fait de faire à moitié, il est très périlleux. Pour quelqu'un qui est dans une quête sincère, de se rapprocher de Dieu vraiment, alors on peut le dire, on ne peut pas tout faire à la fois. Alors on fermera les yeux, on ne peut pas le dire, c'est autorisé. Mais on peut comprendre. Et rapidement, il faudra qu'il arrive à la totale. Le but doit être la totale. On n'est pas des menteurs. Dieu, il est vérité. Vérité, presque vrai égale faux. Et le presque vrai, il est beaucoup plus grave qu'un complètement faux. Un complètement faux, c'est clair, c'est pas ça. Un presque vrai, c'est beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus sournois qu'un vrai total. Et nous sommes ceux qui ont tenu, pendant, pour finir avec, on va finir avec cela, pour ta question, tenir, ça veut dire être dans l'éternité. Éternité, c'est ce qui est vrai. Le mensonge, la Gemara dit dans Shabbat page 104, le mensonge ne tient pas longtemps. Tous les mensonges disparaissent. La vérité, elle tient. Elle est éternelle. Celui qui est dans le mensonge, il ne pourra pas avoir une descendance juive. Nous sommes plus que 13 millions. Après, c'est sur 2000 ans, sur 3500 ans, on aurait beaucoup plus. C'est rien de rien. Qui a tenu? C'est un millième du peuple. Alors, on était 1000 au début, on n'y a plus qu'un qui est arrivé. Un. On est dans ce peloton de tête-là. On veut que nos enfants aussi continuent. Grâce à quoi? Une seule chose. Vrai. Total. 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 Ça coûte cher. C'est dur. C'est dur. Mais Dieu, il te dit en deux mots. Ou tu te branches avec moi, ou tu te branches avec ton temps. Tu dis, Dieu, c'est trop dur ta Torah. On vit avec son temps. Très bien, mon cher ami, vis avec ton temps. Mais ton temps va passer. Et quand ton temps passera, tu passeras avec ton temps. Tu crèveras avec ton temps. Non, tu vas rester, toi. Mais ton éternité juive, elle crèvera, elle passera. Le temps passe et toi, tu passes avec. Tu vis avec ton temps. Combien de gens, combien de centaines, des millions de juifs, pendant le dernier siècle, ont quitté la Torah avec l'argument « on vit avec son temps ». On ne veut plus de rabbins avec des lois anachroniques il y a 2000 ans. Ils sont où, ces juifs-là? Tous disparus, tous disparus, tous. Terrible. Par contre, tu dis à Dieu, Dieu, quand tu parles, c'est fini. J'ai mon temps, mais moi maintenant, je me hisse au-dessus des considérations de mon temps. Et je me branche à l'éternité. Le temps passe, toi tu restes branché à l'éternité. Baruch Adonai, l'homme de ma mère.